Donc, je m'appelle Philippe Malherberg, une petite présentation. Donc, je suis ingénieur de recherche à l'Institut pour le développement forestier. Donc, c'est un institut technique, c'est le service technique du CNPPF, Centre national professionnel de la propriété forestière. Et donc, c'est un organisme, c'est un établissement public qui travaille au service des propriétaires forestiers privés. Alors, ça fait maintenant, je dirais, pas loin de 18 ans que je travaille sur les techniques de reboisement. Et à ce titre, je suis amené à réfléchir avec mes collègues sur la recherche d'alternatives non polluantes, c'est-à-dire la réduction plutôt des intrants polluants dans la gestion forestière, sur cette partie de la vie d'un peuplement qui va de zéro, c'est-à-dire de la plantation, jusqu'à plus 15 ans. Alors on a deux axes de travail sur lesquels auxquels nous nous intéressons. C'est la recherche d'alternatives non polluantes dans un contexte de réduction des produits phytosanitaires. J'en parlerai dans quelques instants. Et puis, un deuxième axe aussi, qui est la protection des arbres contre les dégâts du gibier et la recherche d'alternatives également non polluantes, puisque les techniques ou les stratégies utilisées font appel à du plastique. Et nous parlerons également de la problématique de l'élimination des plastiques courant de cette matinée. Donc, ce qui m'amène donc à intervenir ce matin concerne la première partie de mes activités de recherche et de développement et concerne le paillage des arbres. Alors on m'a demandé donc de vous présenter un petit peu les objectifs techniques, les objectifs culturels du paillage. Alors je serais bien prétentieux de vous dire qu'en une heure je vais pouvoir tout vous présenter et je ne serai certainement pas le seul à vous parler de ces objectifs, puisque Charles Gers dans quelques instants, après mon intervention, vous parlera de l'impact des paillages sur la biodiversité du sol, et Jackie Dupetit, dans l'après-midi, mettra en évidence ou en relation l'impact du paillage sur la pédogenèse du sol. Donc, ma présentation va se diviser en plusieurs parties. Après une brève introduction concernant les définitions, mais on essaiera d'aborder ou de recadrer un petit peu, enfin de mettre cette journée en perspective dans le contexte réglementaire de la diminution de l'arsenal des produits phytosanitaires d'une part, et l'élimination des déchets plastiques d'autre part. Et puis je ferai une brève introduction sur l'intérêt des biomatériaux, puisque je pense que c'est ça qui vous amène aujourd'hui, c'est quelles sont les alternatives aux produits chimiques qu'on pourrait peut-être qualifier de polluants, et l'alternative à l'usage des produits plastiques. Et ensuite, je rentrerai dans les aspects beaucoup plus techniques qui concernent l'objectif cultureux du paillage, en me limitant à trois aspects, au désherbage des plants, qu'est-ce que c'est que le paillage, et quelles sont les relations de compétition entre l'arbre et l'herbe. Ensuite, nous verrons comment un paillage peut impacter la température et l'humidité du sol. Alors, petite définition tout d'abord pour qu'on soit certain qu'on ait tous le même langage. Qu'est-ce que c'est qu'un paillage? C'est un mode d'entretien des plantations. C'est comme les lagages, c'est une technique, c'est pas un produit, le paillage. Donc c'est un mode d'entretien des plantations qui consiste à disposer sur le sol un matériau, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit, formant, donc on appelle un paillis, qui forme un écran. Et cette notion d'écran est importante. Et l'objectif, en tout cas pour le forestier que je suis, c'est de limiter au maximum le développement, l'installation, la croissance des adventices. Alors il y a une autre définition qui a été donnée par deux chercheurs américains que j'aime beaucoup, parce qu'elle donne une autre dimension à cette notion du paillage. Et ces chercheurs définissent le paillis comme un matériel ou un matériau inorganique ou organique qui est déposé à la surface du sol, jusque-là on est d'accord, mais comme une aide temporaire à la stabilisation structurale de ce sol et à l'amélioration de ses conditions microclimatiques et l'ensemble de ses propriétés étant favorable à l'installation des végétaux. Donc dans cette définition, il y a une dimension tout à fait intéressante qui montre bien que le paillis ou la technique du paillage a une relation extrêmement étroite avec ce qui se passe dans le sol et que de par l'installation de cet écran à la surface du sol, on va modifier le microclimat proche, situé à proximité de l'arbre. Voilà pour l'introduction, donc la notion de paillage et de paillis. Nous verrons également au cours de cette journée, que ce soit ce matin ou je pense plus directement durant la tournée de terrain cet après-midi, mais que l'intensité de l'effet paillage qui est initié par ces différents matériaux est directement en fonction de la nature intrinsèque, donc des matériaux constitutifs de ce produit, c'est-à-dire que l'impact sur la croissance de l'arbre va être différent si on a affaire à un matériel organique ou inorganique. L'impact va être différent en fonction de la couleur du matériau, de la densité, de l'épaisseur, de la granulométrie, etc. Toute une série de paramètres qui vont directement influencer cet impact. Alors, mettons un peu en perspective notre discussion sur le paillage en rappelant très brièvement le contexte réglementaire et en particulier qu'en est-il du retrait programmé des herbicides chimiques. Alors, vous connaissez sans doute très certainement cette directive européenne, hein, la 91-414, qui date plutôt de 1993 pour être exact. Elle a défini deux choses très très importantes. Le premier, c'est le principe de la protection de la santé humaine. Enfin, elle a exprimé le principe que la protection de la santé humaine et de l'environnement, la protection de l'environnement, passe avant les impératifs de production agricole. Bon, c'est un pas tout à fait intéressant. Ce qui en découle concrètement, c'est la remodification de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la Commission européenne a demandé aux firmes pharmaceutiques, c'est de faire réhomologuer leurs produits. Et cette procédure d'homologation, bon, vous savez que l'homologation, c'est une procédure qui est préalable à toute commercialisation d'un produit phytosanitaire et qui définit l'efficacité du produit, ses conditions d'utilisation, ainsi que son innocuité sur l'environnement, sur la santé humaine ou sa toxicité, si vous préférez. Donc, cette procédure d'homologation est à charge, en fait, des firmes fabriquant ces produits. Donc, ça change un petit peu la donne parce que les entreprises qui avaient des autorisations de mise sur le marché pour leur spécialité commerciale ont été obligées de redéposer des dossiers toxicologiques et cotoxicologiques. Et cette procédure est extrêmement coûteuse. Donc, certaines d'entre elles ont fait une balance entre le coût de la réhomologation, d'une part, et la rentabilité ou les parts de marché octroyés par la commercialisation de ces produits. Et beaucoup de produits ont commencé ainsi à disparaître. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais à l'origine, on avait plus de 800 produits. En tant que forestier, je ne connais pas les produits phytosanitaires utilisés hors forêt, mais en forêt, aujourd'hui, l'usage de la protection des arbres dans un contexte forestier, il ne reste plus que 10 herbicides chimiques. Donc ça pose un gros problème, parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle un contexte d'usage orphelin. C'est une notion un peu récente, c'est-à-dire que c'est une problématique technique, quelle qu'elle soit, hein, pour laquelle il n'existe pas de spécialité agropharmaceutique autorisée. Et ça, depuis 3-4 ans, ça devient extrêmement fréquent. Alors, sur cette diapositive, vous connaissez peut-être ce produit, le Velpar. C'est un produit d'herbage des plantations résineuses, donc des jeunes plantations résineuses, donc pour lutter contre les graminées. Donc ça, c'est la spécialité commerciale. La matière active ou la substance active est l'hexazinone. Ce produit est interdit depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le forestier a une problématique de désherbage de ses jeunes plantations résineuses. Donc c'est un problème qui n'est pas moindre, enfin qui n'est pas faible. Le ministère de l'Agriculture en a pris conscience et a mandaté la Direction générale de l'alimentation pour toutes les spéculations agricoles, donc que ce soit l'horticulture, les cultures agricoles alimentaires, que ce soit la forêt, d'établir la liste d'essais de ces usages orphelins. Donc, un certain nombre de commissions se réunissent à l'heure actuelle. Pour la forêt, c'est le département de la santé des forêts qui s'occupe de cette démarche de contrôle des usages orphelins. L'objectif, c'est d'élister ces usages pour lesquels on n'a plus de produits pharmaceutiques disponibles, prioriser leur importance, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont plus urgents que d'autres à résoudre, et trouver des alternatives donc qui soient concertées. Alors, dans certains cas, ces alternatives, c'est la recherche d'autres produits phytosanitaires. Et puis, quand c'est pas possible, quand les fabricants ne veulent pas proposer des produits de substitution, c'est la recherche d'alternatives non polluantes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'entre elles, le paillage. Une petite chose avant de terminer sur les herbicides, on dit toujours que le grand public, n'aime pas les produits chimiques. Alors j'ai essayé de trouver dans la littérature scientifique des publications traitant de ces aspects un peu plus sociologiques, et la seule référence que j'ai trouvée, c'est une étude américaine, je vais vous la traduire, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas eu le temps de le mettre en français, mais c'est une étude qui date, qui date de 98, enfin la publication, mais l'étude a été faite en 94. On a demandé en Oregon, donc c'est cette province américaine qui est délimitée par l'océan Pacifique à l'ouest des États-Unis, la frontière canadienne et les Rocheuses. C'est de là d'ailleurs que vient un arbre que les forestiers nous apprécions, qui est le Pseudotsugaminzi, le Douglas. Donc c'est une région extrêmement forestière. Et on a demandé aux gens d'évaluer le risque de l'usage de 9 techniques de désherbage, qui sont les techniques traditionnelles qu'on utilise, que je vous cite, hein, le pâturage animal, c'est-à-dire qu'on désherbe en mettant les arbres en association avec du bétail. Manuel cutting, c'est le désherbage manuel, en général avec une débroussailleuse à dos. Cover crop, nous verrons ça cet après-midi avec Agnès Sorisso, c'est les techniques de semi-herbacées, ce sont des mélanges couvre-sol, alors, en général à base de légumineuses, de crucifères, de céréales. Et l'objectif, c'est de les installer, de couvrir le sol au pied des plants et d'empêcher la végétation naturelle herbacée compétitrice de se réinstaller. C'est une technique innovante qui n'est pas encore au point, mais qui, dans certains pays, est déjà utilisée pas mal, notamment en Nouvelle-Zélande. EV Equipment, c'est simplement les désherbages mécanisés. Donc, le matériel de désherbage est mis derrière un tracteur. Les mulches, c'est le paillage, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous pouvez également contrôler les mauvaises herbes avec un brûlage contrôlé. Il y a une technique un petit peu plus récente qu'on appelle le contrôle biologique, c'est-à-dire qu'on utilise des phytotoxines naturelles pour lutter contre les mauvaises herbes. Voilà, c'est une technique qui est en plein développement, notamment en Angleterre à l'heure actuelle. Et puis nous avons le désherbage qui se fait au sol, et puis vu les surfaces aux États-Unis, il y a le désherbage également aérien. Alors dans cette étude, pour ces 9 modalités de désherbage, on a demandé aux gens de définir le niveau de risque. Si les gens pensaient si c'était une technique très risquée ou pas. Et ce risque a été défini en 4 modalités. On leur a demandé s'ils étaient personnellement inquiets de la mise en œuvre de la technique, si la technique pouvait être représentée un risque pour les générations futures, s'il pouvait y avoir des implications potentiellement catastrophiques ou des résultats. Et la dernière, je ne sais plus. Ah oui, et si cette technique était difficile à contrôler. Et en fait, je trouve que les résultats sont tout à fait intéressants. C'est que finalement, ce qui est perçu comme étant extrêmement risqué, ça reste le désherbage chimique. Ainsi que, on le voit, oui, c'est un peu faible, ainsi que le contrôle biologique et le désherbage terrestre. Parmi les techniques qui sont perçues comme étant les moins risquées, ben, on retrouve heureusement le paillage. À l'époque, en 1994-1998, c'est essentiellement du paillage plastique noir et du papier. Hein. Donc le paillage, moins de 8% des gens considèrent que c'est une technique risquée. Et dans donc, cette catégorie, vous trouvez le désherbage par utilisation du feu, le désherbage mécanisé lourd et le mulch, donc je vous l'ai dit. Et les techniques aujourd'hui qui sont perçues comme étant les moins dommageables, ça reste le pâturage animal et le désherbage manuel. Alors ça, c'est l'estimation du risque. Maintenant, quel est le niveau d'acceptabilité des techniques? Et ça, c'est là où je voulais en arriver. C'est que, ben, évidemment, les techniques qui sont perçues comme étant les moins acceptables, ça reste le désherbage chimique. Donc il y a effectivement une crainte de la population pour tout ce qui est chimique. Ce qui est par contre très intéressant, et je crois que le montage ne le montre pas, ça n'apparaît pas à votre écran. Si, voilà. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que... seulement 65% des gens considèrent que la technique du paillage est une technique acceptable et sécurisée, sécurisante. Ce qui, moi, m'a beaucoup étonné, c'est qu'une technique qui est perçue un petit peu plus positivement, c'est le désherbage mécanique. Et on sait aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, il n'y avait pas de réflexion à ce niveau-là, mais on sait aujourd'hui que le désherbage mécanisé lourd a des impacts extrêmement négatifs sur la stabilité structurelle du sol. Ça a été notamment très très bien démontré après, dans le cadre des études qui ont été faites après tempête, où on a essayé de reconstituer la forêt. Le débardage et le débusquage mécanique a provoqué des dégradations de sol qui sont souvent irréversibles. Ce que ça veut dire, c'est un petit peu là où je voulais arriver dans cette présentation, enfin sur cette diapositive, s'il y a clairement une méconnaissance des impacts environnementaux des techniques, c'est-à-dire que certaines techniques peuvent être perçues comme étant dommageables, d'autres beaucoup plus sont perçues comme étant plus intéressantes, alors qu'inversement, leur impact environnemental est beaucoup plus négatif. Qu'en est-il maintenant des plastiques? Il est clair que le produit référent, le produit standard aujourd'hui, ça reste le film plastique, en général en polyéthylène, produit standard, spécial vin, 2 étoiles français, produit labellisé. Alors, les premiers essais donc, de paillage ont eu lieu en association avec l'arbre, ont eu lieu dans les années 60, début des années 60, ce qui fait que depuis lors, le paillis plastique s'est imposé vraiment comme le produit référent, parce que son coût est faible, sa durabilité est très longue, et enfin, il est clair qu'il y a une efficacité biologique indéniable, efficacité biologique, c'est-à-dire un impact positif sur la croissance en hauteur, en diamètre et sur la survie des arbres. Aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on se pose la question, enfin, l'environnement réglementaire a un petit peu changé, c'est que dès que le plastique a rempli son rôle, le film de paillage a rempli son rôle, il est considéré comme un déchet. Il y a une réglementation extrêmement précise qui ne date pas d'hier, qui date des années, début des années 80, qui est le code de l'environnement, et qui définit ce que c'est qu'un déchet. Et les films plastiques n'échappent pas à cette réglementation. Alors, cette réglementation, elle dit, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est un résidu de tout processus de production, de transformation, d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement tout bien meuble, abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon. Alors vous voyez très bien sur ces diapositives, on est sur la rocade toulousaine, je suis basé sur Toulouse, ça c'est une plantation autoroutière, donc les plastiques ont été abandonnés. Théoriquement, ces plastiques devaient être collectés et recyclés. Donc l'entreprise qui a posé ces plastiques est hors la loi. Donc usagé, le film plastique est considéré comme un déchet. Usagé, le film plastique doit faire l'objet d'une élimination, c'est ce que je vous disais. Donc, qu'est-ce que dit l'article 2 du Code de l'environnement? C'est que toute personne qui produit ou détient des déchets, excusez-moi de lire, mais je pense que c'est important, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites et les paysages, à polluer l'air ou l'eau, et à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination. Alors, qui est producteur de ces déchets? Et c'est à ça que je voulais également arriver sur ces aspects-là. Ben, vous et moi. C'est-à-dire le sylviculteur que je suis est générateur de déchets, les pépiniéristes le sont, les agriculteurs, les horticulteurs, les arboriculteurs, mais également les communes, les collectivités locales ou les entreprises privées qui utilisent des fournitures plastiques. Quelles sont les solutions d'élimination maintenant de ces déchets plastiques? Parce que vous me dites, ok, je veux respecter la loi, quelles sont mes possibilités? La solution la plus facile, vous le savez, c'est l'abandon. Donc, c'est-à-dire que je laisse les plastiques en place, comme vous l'avez vu sur la photo préalable. Donc, bien sûr, il y a un impact visuel important. Ces déchets peuvent se retrouver, donc se retrouvent à terme dans l'environnement, dans les cours d'eau. Il peut y avoir des risques d'obstruction de vannes sur les cours d'eau, etc. Et parfois des risques d'ingestion par les animaux. Les plus courageux d'entre nous vont enlever les plastiques, mais ne sachant pas quoi en faire, on va les stocker en bout de parcelle, dans un coin. Ça, en fait, c'est associé ou considéré comme une mise en décharge sauvage. Et je ne vous parle pas, bien sûr, de l'impact visuel important. Enfin, si je veux faire disparaître l'objet du délit, j'ai deux autres possibilités. Je brûle mes plastiques. Donc là, il y a le risque de fumée, de dégagement de fumée désagréable. C'est une source de pollution également. Il y a des risques d'incendie si le brûlage n'est pas correctement contrôlé, si les opérateurs n'ont pas l'habitude, il y a encore des risques de brûlure. Une autre façon de cacher ces plastiques, eh bien, c'est tout simplement de les enfuir. Donc il est clair que dans des milieux qui sont globalement anaérobiques, c'est-à-dire dans lesquels il y a peu ou pas d'oxygène, il est clair que la décomposition des plastiques sera encore beaucoup plus lente, voire impossible, que si le plastique avait été abandonné à la surface du sol. Il est clair que les déchets, à ce moment-là, vont avoir aussi un impact sur la qualité du sol. Voilà. Donc, quelles sont les solutions? Si les plus courageux d'entre nous, jusqu'en 2002, je crois, oui, c'est ça, jusqu'au 1er juillet 2002, on aura encore la possibilité d'amener les plastiques à la déchetterie. Hein, donc, ce qu'on appelle les décharges à ciel ouvert. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, cette possibilité est aujourd'hui interdite parce que le plastique peut faire l'objet d'un recyclage. Et ce n'est pas un déchet ultime. Donc, l'ensemble de ces pratiques, il faut savoir qu'elles sont formellement interdites par la loi. Donc, cette loi est définie dans le code forestier, ça m'intéresse plus directement, mais également dans le code de l'environnement, ce qui vous concerne, mais également les droits de police de maire ou du préfet, définissent un certain nombre de règles auxquelles il faut se conformer. Bien sûr, tout ça a un coût. Alors, si nous sommes de bonne composition, j'allais dire, si vraiment nous voulons arriver à collecter ces déchets et les recycler, quels sont les obstacles qui se posent à nous? Ces obstacles sont loin d'être neutres, en fait, dans la mesure où, dans un premier temps, il y a le problème de la dispersion géographique des déchets, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un morcellement des plantations ligneuses, et ce morcellement constitue un frein à la collecte et au recyclage. Tout ça a un coût économique non négligeable. Un deuxième problème, c'est l'hétérogénéité des lots de déchets. Sur une parcelle, vous avez un polyéthylène, haute densité, de couleur noire. Sur un autre chantier, vous avez un paillis de polypropylène non tissé de couleur blanche. Enfin, sur un troisième chantier, vous avez de nouveau un polyéthylène haute densité, mais tressé cette fois-ci, et de couleur verte. Donc on se retrouve avec des lots de marchandises qui sont, enfin des lots de déchets, pardon, qui sont extrêmement hétérogènes, qui ne sont pas miscibles et qui nécessitent un tri préalable, et ce tri a un coût qui est non négligeable. Ensuite, un autre problème technique qui se pose au recyclage de ces déchets, c'est le taux de salissure. En fait, il y a des études qui ont été réalisées très très précises. En fait, le plastique qui est au contact du sol va se charger de déchets de terre. Et lorsqu'on arrache les plastiques, comme vous le voyez sur cette photo, donc de la terre est emmenée. Et cette terre peut représenter jusqu'à 50%, en moyenne, 50% de la masse qui a été déposée. En plus, cette quantité de terre sera d'autant plus importante que le plastique est mince. Et on a remarqué que sur les plastiques agricoles, ce n'est pas 50% de taux de salissure que l'on a, mais on peut aller jusqu'à 70%. Donc c'est non négligeable. Et cette terre, elle n'est pas anecdotique, elle pose un problème pour le recyclage, parce qu'elle peut provoquer des problèmes d'usure des pièces, des problèmes de blocage des filtres. Donc il est impératif de faire un nettoyage préalable, ce qui représente un coût de manœuvre d'une part et un coût énergétique d'autre part. Ensuite, le coût du ramassage proprement dit. Donc une association de haies a essayé d'estimer, ils ont arraché 200 mètres linéaires de plastique à raison de 19 euros du coût de main-d'œuvre horaire pendant une journée de travail. Ils ont estimé à 80 centimes d'euros du mètre carré le coût de recyclage. Et en fonction des conditions stationnelles, la littérature montre que ces coûts de ramassage peuvent aller jusqu'à 4 euros du mètre carré. Je vous rappelle que le plastique, l'achat du plastique, paillage, ça représente entre 18 et 22 centimes d'euros du mètre carré à l'achat. Et enfin, le recyclage, eh bien ça c'est le ministère de l'Agriculture qui a essayé d'estimer ce coût, et on est à 80 centimes d'euros du mètre carré. Donc globalement, même si nous sommes de bonne volonté, si nous voulons respecter la loi, nous sommes concrètement dans une impasse technique et économique. Que fait-on ? Que fait-on ? Eh bien, je pense que c'est ça qui vous amène aujourd'hui. Peut-être qu'on utilise à ce moment-là une alternative que sont les biomatériaux, les paillages biodégradables. Alors, quels sont les avantages de ce produit ? Bon, globalement, ce sont des produits qui sont constitués de fibres naturelles végétales. Donc, ce sont des fibres largement disponibles. Ça peut être des fibres de bois, des granulés de liège, des fibres agricoles qui sont produites en France comme le lin ou le chanvre, ou qui sont d'importation comme le sisal ou le coco. Et puis, bon, ce sont des produits qui se développent depuis une dizaine d'années. Hein. Vous les connaissez, je pense, en tout cas certains d'entre eux. Et puis, depuis moins de 5 ans, je dirais, en tout cas pour ce qu'on appelle les paillages de longue durée, on voit apparaître sur le marché des bioplastiques. Guy César en parlera beaucoup mieux, à mon avis, tout à l'heure. Simplement vous dire que ces produits sont soit d'origine naturelle, sont des polysaccharides, des protéines, ou ce sont des produits qui sont issus de la biotechnologie, notamment de la fermentation du lait. Ça, c'est une famille de produits qu'on appelle le PLA. Vous avez peut-être déjà entendu cette appellation. C'est un produit assez durable d'une manière générale. Donc, voilà, l'acide polylactique, qui a des avantages et des inconvénients. On en parlera dans la journée. Et puis, vous avez aussi des produits qui sont issus de la synthèse industrielle. Je pense qu'il doit y avoir un des fabricants ici de cette molécule aujourd'hui, qui est le Materbi, qui est un polyester de synthèse qui est associé à de l'amidon. Donc, alors ces produits sont bien sûr extrêmement prometteurs. Bon, nous avons testé, sur le site de Clessivic, que nous allons voir tout à l'heure, la première génération de ce produit. On a une durabilité qui ne dépasse pas 18 mois. Nous avons testé la deuxième génération de ces produits dans le sud de la France avec un ensoleillement beaucoup plus important et sur des sols beaucoup plus secs. Cette deuxième génération n'a pas une durabilité qui dépasse également 18 mois. Et cet hiver, nous devrions être amenés à tester la troisième génération qui est annoncée ayant une durabilité de 30 mois. Mais faut-il encore le vérifier. Grosso modo, enfin globalement, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces matériaux biodégradables ? C'est qu'ils sont issus de ressources renouvelables, puisqu'issus du cycle de vie des végétaux. Et ce qui nous intéresse, je crois, aujourd'hui, c'est qu'ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dégradés et bioassimilés par les micro-organismes. Et je laisserai de nouveau à Guy César le soin de vous expliquer ça en long et en large tout à l'heure. Bien sûr, ces produits sont perçus de manière positive par le public. Ils s'intègrent de manière esthétique, enfin, de par leur esthétisme, ils s'intègrent bien dans le milieu naturel. Et enfin, leur fabrication, c'est pas un élément inintéressant, fait appel à un outil industriel qui est existant. Alors vous connaissez les produits de feutre, un type jus de sisal, chanvre, sisal, etc. Ce sont donc des produits qui font appel à la technique de l'aiguitage. Quand on fabrique des matelas, en fait, c'est la même technologie. Il y a des produits à base des dalles rigides, de liège ou de fibres de bois. Ce sont des produits qui sont thermosoudés. Et puis, ben, il y a une dernière famille de produits qui sont les produits fluides, mais eux ne font pas l'objet d'une fabrication particulière, si ce n'est un broyage préalable. Ah oui, peut-être simplement les fibres bioplastiques. Eh bien, pour extruder, enfin, la technique de fabrication, c'est l'extrudage, l'extrusion, pardon. La technique est globalement similaire, que ce soit pour un plastique ou un bioplastique. Les paramètres simplement de fabrication, température, humidité sont différents. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons effectivement face à nous un arsenal de produits phytosanitaires assez large. Il y a une grande diversité des produits commercialisés. Je vous ai cité les quatre grandes familles aujourd'hui de produits disponibles. Et en tant que professionnel, notre problème, c'est de connaître les caractéristiques de l'offre d'une part, et puis trouver le produit qui correspond à nos besoins. Et ce n'est pas toujours aussi facile. Alors on va rentrer dans les aspects beaucoup plus techniques, peut-être un petit peu scientifiques. Quels sont les objectifs culturels? À quoi sert un paillage, en fait, hein? Donc un paillage, c'est selon moi, pardon, un paillis, selon moi, a pour objectif, lorsque je suis un planteur et que je pose un paillis, je vise à limiter ou empêcher la croissance des adventices. Les adventices, c'est le terme pour les mauvaises herbes. Un deuxième objectif, c'est de limiter les pertes en eau du sol ou contribuer à conserver le sol frais. Et ça, c'est un avantage qui est loin d'être négligeable lorsqu'on est sur des sols, des terres de remblai assez sèches, ou lorsqu'on inscrit notre démarche de plantation, qui est une démarche à long terme, dans un contexte de réchauffement climatique, puisque vous savez que le changement du climat prévoit une augmentation des précipitations hivernales et surtout une diminution des précipitations estivales, c'est-à-dire pendant que la demande en eau est la plus importante, en été, période de croissance de l'arbre, eh bien, cette demande risque de ne pas être satisfaite. Troisième objectif que je vous parlerai ce matin, c'est que les paillis ont la possibilité, en fonction de la nature intrinsèque de leur matériau, soit d'augmenter, soit de réguler la température du sol. Outre ces trois objectifs, il y en a d'autres. Dès l'instant où je place un écran à la surface du sol, je suis amené éventuellement à le protéger, et donc notamment de l'eau pluviale, des précipitations, notamment sur des sols limoneux, qui sont des sols fragiles et sensibles à la battance. Eh bien, l'usage d'un plastique ou d'un paillage biodégradable, d'un paillis biodégradable, peut améliorer la structure du sol et sa stabilité structurelle. Ça, c'est un des avantages qui peut être recherché. On peut également, en fonction, c'est valable essentiellement pour les matériaux biodégradables, et ça, Charles Gers et Jackie Dupetit vous en parleront tout à l'heure, le paillis peut également influencer la disponibilité des éléments minéraux du sol et donc sa fertilité. Et enfin, dans quelques instants, vous verrez que le paillis peut améliorer la biodiversité du sol, donc la vie dans le sol, et ça a été notamment mesuré par des suivis de population de colamboles, de mésophones. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, le simple fait de déposer ce paillis à la surface du sol, ça va modifier les échanges thermiques, hydriques et gazeux entre le sol et l'atmosphère. Donc, on va modifier des paramètres de production extrêmement importants, que seront la température, l'humidité, les échanges gazeux, la croissance du système racinaire des arbres, lesquels vont avoir une répercussion, un impact immédiat sur la croissance et la survie de l'arbre. Donc, le paillage ne se limite pas uniquement à la répression de la végétation adventice ou indésirable. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on fait appel à ces techniques, eh bien, on va essayer d'atténuer les effets de certaines conditions adverses. Donc c'est la grêle, un ensoleillement excessif, c'est le vent, c'est la pluie trop importante, la grêle, je l'en ai déjà parlé. Donc protéger le sol contribue pailler le sol contribue à protéger le sol au bénéfice de la survie et de la croissance de l'arbre. Alors parlons des techniques de désherbage proprement dit. Bon, il est clair, ça je crois que vous êtes tous convaincus là-dessus, de ça, qu'il faut limiter ou empêcher le développement des mauvaises herbes
en raison de ce qu'on appelle la compétition. Alors la compétition, une petite définition, c'est cette relation particulière entre deux individus qui ont des besoins identiques pour un élément qui est disponible en quantité limitée dans le milieu. Donc cette compétition, elle s'exerce à deux niveaux. Là, on est dans la relation herbe-arbre. Donc elle s'exerce au niveau, d'abord au niveau souterrain. Alors il y a une étude tout à fait intéressante américaine qui a été faite par ces deux chercheurs qui a très clairement montré que sur friche herbacée, parce qu'on est dans un contexte de friche herbacée, c'est-à-dire du boisement de terrain agricole, des plantations des haies, des projets de reverdissement de parterres, de massifs en zone urbaine, ou des projets de végétalisation de talus, en milieu, de délaissés en milieu autoroutier, ferroviaire ou industriel. C'est ce que j'appelle plantation sur friche herbacée. Dans ce contexte, des chercheurs ont clairement montré que les mauvaises herbes, ce qu'on appelle classiquement les mauvaises herbes, ont un développement racinaire extrêmement rapide. Et ces auteurs ont notamment montré que la densité du système des racines, des adventices dans les premiers centimètres du sol, pouvait aller jusqu'à atteindre jusqu'à 50 fois plus, une densité supérieure de 50 fois plus par rapport aux jeunes plants ligneux que l'on veut installer. Donc, en fait, il y a un phénomène de compétition. Et ce phénomène de compétition a lieu pour l'eau et les éléments nutritifs, donc les éléments minéraux du sol. Alors l'eau, vous savez que c'est un élément indispensable à la physiologie, au métabolisme de la plante. L'eau est nécessaire pour assurer la circulation dans la plante de la sève brute, de la sève élaborée, qui intervient dans le processus d'assimilation d'eau et de photosynthèse. Nous verrons ça dans quelques instants. Et en cas de carence en eau, les premiers problèmes, ce sont des flétrissements, c'est-à-dire des morts de cellules, comme vous voyez, et bien sûr, dans les cas les plus extrêmes, ça peut aboutir à la mort de l'arbre. Donc, nécessité d'éliminer cette compétition pour l'eau. Et puis, les éléments nutritifs, on en parle rarement, mais en cas de carence, donc c'est l'azote, le phosphore, le potassium, le zinc, le bore, le manganèse, etc. En cas de carence, dans un premier temps, on a également des dessèchements de feuilles. Dans les cas les plus extrêmes, on a des défoliations, c'est-à-dire des chutes de feuilles. Et les cas encore plus extrêmes, on a des ralentissements de croissance d'arbres. 20 minutes, ça va aller. Merci. Deuxième niveau de compétition, c'est compétition au niveau de l'espace aérien. Ça, on n'y pense pas. C'est surtout valable. Enfin, compétition pour l'eau, c'est surtout valable pour les graminées. La compétition avec les dicotylédones, elle s'exprime essentiellement au niveau aérien. C'est-à-dire que les plantes ont la possibilité, donc le développement spatial d'une plante peut poser un problème dans la mesure où ce développement spatial va modifier les courants thermiques, hydriques, gazeux à proximité immédiate de l'arbre. Le gros problème se pose essentiellement pour l'énergie lumineuse, puisque vous savez que l'énergie lumineuse est nécessaire au processus de la photosynthèse. Donc un développement trop important de ces mauvaises herbes fera en sorte que l'arbre ne disposera pas de l'énergie lumineuse suffisante pour assurer ses processus métaboliques et assurer sa photosynthèse donc et pousser tout simplement. Et puis un élément qui est pas négligeable aussi, c'est qu'il y a des risques de détérioration physique liés à trop forte proximité de ces herbes par rapport à l'arbre, notamment par frottement ou écrasement, notamment les régions dans lesquelles il y a des problèmes de neige. Il y a souvent des phénomènes de mortalité à cause de ces phénomènes d'écrasement. Alors, les chercheurs qui ont travaillé sur les phénomènes de compétition herbe-arbre ont défini un certain nombre de principes qui sont importants et nous verrons que le paillage répond bien, de manière générale, à ces principes. C'est-à-dire que d'abord, ceux qui ont fait du boisement de terrain agricole, vous voyez, ça c'est plantation de chêne rouge dans le sud-ouest. Donc l'herbe, elle arrive, là c'est en début de saison, elle peut arriver jusqu'à 1,20 m de haut. Les agriculteurs, classiquement, désherbent sur les interbandes. C'est extrêmement difficile de leur faire comprendre que ça sert strictement à rien, juste après la plantation, les trois premières années après l'installation des arbres sur le chantier, ça ne sert à rien. En fait, il est impératif et bénéfique de limiter ou empêcher le développement des adventices, mais j'ai été trop vite. J'ai oublié la conclusion, j'étais un petit peu vite. Donc, je reviens à ça. Simplement dire que, oui, le paillage, il va bloquer la lumière nécessaire à la photosynthèse. Et un élément important, c'est qu'il est impératif d'assurer l'opacité de ces paillis, ce qui est loin d'être évident avec les paillis biodégradables. Voilà où je voulais arriver. Donc, privilégier le désherbage au pied des arbres, et non pas sur les interbandes, ça ne sert à rien. Plusieurs études ont montré que cette suppression, ce désherbage, doit avoir lieu pendant 2 ou 3 ans. Alors, sur les biomatériaux, ça pose un problème, parce que beaucoup d'entre eux, en tout cas jusqu'à présent, n'arrivent pas à avoir une durabilité suffisante. Donc, et tout l'enjeu, si on veut assurer la survie de nos végétaux ligneux, eh bien, c'est d'assurer une efficacité herbicide au moins pendant 3 ans. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que la perte de croissance de l'arbre est d'autant plus forte que l'herbe est proche du plant. Alors, à contrario, et ça pose la question, quelle doit être la taille de mon paillage ? C'est que plus mon paillis est grand, plus son impact sera positif sur la croissance de l'arbre. Alors, pour vous faire bondir, je dirais, pour vous faire réagir, la littérature montre clairement que cette surface, pour les feuillus précieux, d'une manière générale, la surface d'un paillage doit être d'un mètre carré, au minimum. Des études américaines ont montré, notamment sur les résineux, parce qu'on paille peu les résineux en Europe et en France en particulier, en tout cas en forêt, la dimension de ce paillage doit être entre 1,50 m et 1,90 m. Alors, pour essayer de répondre un petit peu à cette question et faire la balance entre l'efficacité du produit et son coût, sur le site que nous verrons cet après-midi, il y a un essai dont voici une partie des résultats. On a mesuré la croissance en diamètre pour un certain nombre de produits. Vous avez le témoin, non désherbé. Vous avez les arbres désherbés avec du glyphosate sur une surface d'un mètre carré. Et puis, vous avez 3 modalités de taille d'un produit que vous devez connaître. Hein. C'est la dalle isoplan. Donc c'est une dalle rigide à fibre de bois et qui contient jusqu'à 5% de bitume. Et vous voyez les dimensions, 60 par 60, 80 par 80, 1,20 m par 1,20 m, et vous avez les dimensions respectives paillées au sol. Quand on regarde l'efficacité, eh bien on voit qu'il y a peu de différence. Ça, c'est l'accroissement, le différentiel d'accroissement entre la modalité paillée ou entretenue par rapport au témoin. Eh bien, il y a, sur le site que nous allons voir tout à l'heure, il n'y a pas de différence quasiment, si ce n'est 8% de différence de croissance, entre une dalle qui fait 60 par 60 et un témoin. Donc je vous pose la question de l'intérêt des paillis qui font 45 par 45 et que l'on voit fréquemment en zone urbaine. La dalle isoplan de 80 par 80, elle a 27% de croissance sur le site. Et bien sûr, plus on augmente ses tailles, on peut aller pour un 1,20 m par 1,20 m jusqu'à 65% de croissance. Mais bien sûr, à quel prix ? Donc, sur ce graphique, eh bien, vous voyez les coûts unitaires de chacune des plaques, le prix ramené au mètre carré, j'ai rajouté 1 euro de pose, et vous avez le coût global de la fourniture mise en place. Et donc, on a un différentiel de prix qui va de 2,40 à 5,90, ce qui est un investissement non négligeable. Voilà. Il me reste 10 minutes. Oui ? Donc, je vais aller assez vite sur ces aspects physiologiques. Simplement vous dire que comment fonctionne un paillage, en fait. Pour pouvoir comprendre ça, par rapport à sa relation à l'eau. Pour pouvoir comprendre ça, il faut connaître les états de l'eau dans le sol. Donc quand vous savez que l'eau, en fonction du degré d'humectation d'un sol, est contenue dans les pores du sol, hein, dans les vides, qui est qualifié par la porosité. Oups, ça va un peu vite. Donc, quand on regarde une molécule d'eau, dans cette solution du sol, en fonction de sa position, il y a un certain nombre de forces qui s'exercent. Ces forces sont au nombre de 3. Vous avez la force de gravitation, CP, c'est-à-dire la force qui attire l'eau vers qu'il y a l'attraction terrestre et qui amène le sol vers les nappes aquifères, les nappes phréatiques. Vous avez la force d'attraction, de rétention qui est liée aux particules de terre, et puis vous avez la force de succion, des poils absorbants, des végétaux, que ce soit les arbres ou les mauvaises herbes. Bon, et bien en fonction de la position, enfin, et de l'équilibre qui s'établit entre ces différentes forces, on va définir 3 types d'eau. Nous avons l'eau de gravité, l'eau utilisable et l'eau inutilisable. Alors dans le cas de l'eau de gravité, eh bien la force d'attraction est plus importante que la force de rétention, c'est-à-dire que ça c'est l'eau en fait qui est présente dans le sol quelques heures, voire quelques jours après une précipitation, et qui est située dans des pores qui font en général plus de 50 micromètres de diamètre. Il arrive un moment où la force de succion est plus importante que la force de rétention de l'eau par les particules de sol ou la force de gravité, et à ce moment-là on a ce qu'on appelle l'eau utilisable. Et c'est cette eau-là qui va être absorbée par les végétaux. Il arrive un moment où la force d'attraction de ces particules est plus importante que la force de gravité ou la force de succion, c'est-à-dire que l'eau, elle forme un film à la surface des particules de sol Et à part une évaporation intense, les végétaux n'ont pas la possibilité de prélever cette eau. Donc l'eau qui nous intéresse et qui va être utilisée par la plante, c'est ce qu'on appelle l'eau utilisable ou eau de végétation qui sera absorbée par les poils absorbants. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir cette eau dans la plante ? Ben, très rapidement, elle va pénétrer au niveau des racines. Dans cette solution sont dissous des sels minéraux. Ce mélange qui monte vers les feuilles, c'est ce qu'on appelle la sève brute. Donc cette eau va arriver au niveau des feuilles. La plus grande partie va être évaporée sous forme gazeuse. Enfin, une évaporation, c'est toujours sous forme gazeuse. Donc au niveau de la surface des feuilles, et en particulier la surface inférieure, il y a une émission d'eau à l'état de vapeur, pour autant que l'atmosphère soit non saturée en humidité, en vapeur d'eau. Et bon, ça c'est un élément physiologique intéressant, c'est qu'est-ce qui fait fonctionner ce flux d'eau du sol jusqu'aux feuilles ? Bien, c'est un principe physique, hein. C'est-à-dire il y a un appel d'humidité qui va de la base vers le haut. Et l'élimination de cette eau, bien, vous le savez, se fait au niveau des stomates. Donc ça, vous avez les deux cellules de garde et puis vous avez l'ostiole, et c'est à ce niveau-là que se fait la régulation, par régulation stomatique, que se fait l'élimination de la vapeur d'eau. Donc vous imaginez bien, donc ça c'est la première source de perte en eau du sol. Et cette perte en eau est directement assurée par le végétal, que ce soit les mauvaises herbes ou le paillis, ou les espèces ligneuses. La deuxième source de perte en eau du sol, bien, c'est tout simplement l'évaporation atmosphérique. Donc je ne vais pas vous faire un cours de physique ce matin, mais simplement vous dire que l'évaporation, c'est le passage des molécules d'eau, de l'état liquide à l'état vapeur. Lorsque vous avez un sol nu et que les rayons du soleil arrivent au niveau de ce sol nu, l'eau utilisable, souvenez ce terme, l'eau utilisable qui sont dans les pores du sol vont pouvoir être vaporisées. Ce sera la deuxième source de perte en eau. Et cette perte en eau se fera au détriment du ligneux. Alors poussons. Donc, le rôle du planteur, pas du forestier, mais du planteur, c'est d'essayer de lutter contre cette évaporation et cette transpiration, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc le simple fait de déposer un paillis à la surface du sol permet d'empêcher cette évapotranspiration. Je vois que le temps passe, je voulais vous montrer donc ce graphique pour vous en convaincre. Voici un profil de sol, donc vous avez la profondeur et le taux d'humidité, et on a dessiné deux courbes. Ça, c'est l'humidité mesurée dans le sol nu. Ça pourrait par exemple être un sol qui a été désherbé chimiquement. Et là, vous avez l'humidité qui a été mesurée sous un paillis de paille, un paillage de paille. Donc, vous voyez que là, grosso modo, on est à la capacité au champ, tandis que quand on est sur sol nu, dans les premiers centimètres du sol, le taux d'humidité diminue très fortement. J'avance vite. Donc voilà, l'humidité de la terre diminue moins vite en sol couvert qu'en sol nu. Donc à quoi sert donc le paillis ? Et je conclue par ça, par rapport à l'humidité. Donc l'humidité du sol est affectée significativement par le paillis, nous venons de le voir dans le graphique précédent. Par contre, ce qui est important, c'est que l'intensité de cet effet est directement en fonction de la nature des matériaux constitutifs. Alors par exemple, si vous avez, donc sur ce graphique, vous avez un témoin non désherbé. Donc l'humidité est la... Alors oui, ce graphique, c'est issu donc de deux chercheurs canadiens. Vous avez une saison de végétation, ça a été mesuré en 87 au Québec, et vous avez l'humidité. Eh bien, vous avez ces trois courbes. La courbe jaune, c'est le témoin non désherbé. La courbe rose, c'est sous plastique. Et la courbe bleue, c'est sur paille. Donc vous voyez que le profil hydrique est différent en fonction des deux matériaux de paillage. Et il est le plus faible, bien sûr, sur sol nu. Donc ce qui est intéressant, et ça nous en parlerons dans cette journée, c'est que sur les produits biodégradables, notamment les produits tels que la paille ou le bois déchiqueté, les taux d'humidité mesurés sont globalement plus importants que sous les plastiques qui sont imperméables. Et ça aura des implications, Charles Gers vous en parlera dans quelques instants, sur la microfaune du sol. Oui. Qu'est-ce qui influence également l'intensité de l'effet paillage sur l'eau ? Bien, ce sont les conditions climatiques, pédoclimatiques, c'est-à-dire que le paillis sera d'autant plus efficace qu'on est sur un sol difficile, c'est-à-dire un sol peu fertile, à faible capacité de rétention en eau, c'est-à-dire des sols sableux, des sols en pente, des sols caillouteux. Donc sur ce type de sol, le paillis a une très grande efficacité. Bien sûr, il n'y a pas de miracle. Si vous déposez un paillis sur un sol sec, il n'y aura pas d'effet paillage. Donc, et c'est loin d'être anecdotique, parce qu'en matière de gestion de chantier, si vous dites à une équipe de planteurs et de poseurs de paillis de poser un paillis sur un sol sec, il n'y aura pas de miracle. Il y aura des problèmes de mortalité, puisque n'oubliez pas qu'un paillis, ça reste un obstacle à l'alimentation en eau du sol dans certains cas. Donc, pailler sur un sol frais, et à contrario, si le sol est très très humide, de nouveau on met une barrière physique. Si cette barrière physique est présente sur ce sol humide, ce qu'on appelle les sols hydromorphes, on maintient les conditions de manque d'oxygène, et ça se fait au détriment de la croissance des végétaux. Dernière chose, je finis par là, l'impact du paillis sur la température du sol. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la relation, quel est l'impact de cette température sur la croissance des arbres. Plus la température de l'eau dans le sol ou du sol augmente, vous augmentez la paroi racinaire, la perméabilité des parois racinaires. Vous diminuez la viscosité de l'eau et en conclusion, vous augmentez l'absorption par l'arbre de l'eau et des éléments nutritifs. C'est pour ça, probablement, enfin c'est un des paramètres explicatifs qui explique la raison pour laquelle le paillis plastique, dont les propriétés thermiques sont les plus fortes sur le sol, que la croissance observée sur le paillis plastique sont les plus importantes par rapport au paillis biodégradable. Non seulement c'est lié à l'opacité du produit, son efficacité sur la transpiration et l'évaporation, mais également son impact du plastique sur cette température. Voilà, donc l'effet des paillis sur la température du sol par rapport à une surface non protégée. Alors, je vous ai déjà donné un certain nombre d'éléments. En cas d'augmentation, enfin, certains paillis vont augmenter la température maximale ou minimale du sol, d'autres vont réduire les fluctuations quotidiennes. Donc, d'une manière générale, c'est plutôt le plastique qui va augmenter les températures minimales et maximales journalières, alors que les produits organiques, notamment le bois déchiqueté, qui, à mon avis, nous intéresse aujourd'hui beaucoup, lui va plutôt avoir un rôle régulateur, c'est-à-dire qu'on observe que la température est plus faible que sous plastique. Il y a une diminution des températures maximales et une augmentation des températures minimales. C'est ce que vous montre, en fait, ce graphique. Donc, je conclue. Le fait de déposer un paillis sur le sol et au pied des jeunes plants induit un effet paillage qui est souvent positif. Alors, dans la littérature, vous verrez que parfois, quand on paille, on peut avoir des effets négatifs. Par contre, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. La littérature scientifique ne donne pas nécessairement toujours des éléments explicatifs et d'un point de vue physiologie. Mais globalement, l'effet paillage est très souvent positif sur la survie et la croissance des arbres. Et nous avons vu très rapidement, et vous m'excuserez de ma rapidité de ce matin, que l'intensité de cet effet paillage, il est fonction du niveau des compétitions herbacées. Compétition essentiellement graminéenne pour l'eau et les éléments minéraux et pour la lumière au niveau des dicotylédones. Cet effet paillage dépend du type de paillis, ça on en parlera cet après-midi sur le terrain. Donc tout dépend de la durabilité du produit, de sa perméabilité à l'eau, de ses propriétés hydriques, thermiques, optiques, qui vont influencer directement l'humidité et la température du sol. Nous avons vu aussi que l'effet du paillis dépend de la surface paillée, je vous ai montré un graphique. Et je ne vous ai pas parlé ce matin de l'importance de la fertilité du sol et de l'essence, qui sont également deux paramètres qui peuvent influencer fortement l'efficacité d'un paillis. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.